Monseigneur Nicolas Brouvet, bonjour.
Bonjour Hélène.
Je suis contente d'être avec vous et qu'on parle du diocèse, d'une réalité dans le diocèse et particulièrement d'une réalité qui me touche beaucoup dans votre ministère, c'est cette réalité de l'enseignement, de transmettre la foi. Et vous avez mis en place avec l'équipe du CEDIF, eh bien, Fideo. Et il y a eu une première année, Fideo Bible, et maintenant c'est Fideo Credo. Et il y aura une troisième année. C'est triptyque. Et c'est important, et chaque année a son importance. Et il y a eu une journée qui a démarré, un grand rassemblement qui a démarré Fideo au mois d'octobre, et vous aviez fait un très bel enseignement sur écriture, tradition, magistère. Et c'est sur cet enseignement que nous allons nous concentrer aujourd'hui, si vous êtes d'accord, bien sûr.
Ben oui, bien sûr, évidemment. Moi aussi, c'est une joie d'être avec vous, Hélène, et puis aussi de parler aux auditeurs de Radio Ecclesia, en particulier sur ce sujet. Parce que le ministère d'un évêque, c'est précisément de prêcher l'évangile, mais l'évangile compris dans la grande tradition de l'Église, c'est-à-dire l'évangile compris avec la communauté. Pas seulement une communauté diocésaine de Nîmes, pas seulement la communauté des catholiques en 2025, mais la communauté catholique depuis la prédication de Jésus. C'est ça la question de la tradition. C'est la tradition, ça veut dire la transmission. Ça veut dire que nous assurons que ce que Jésus a prêché, que ce que Jésus a prêché en parole et en acte, parce qu'il n'y a pas que les paroles de Jésus, il y a les actes aussi, eh bien, tout cela est vraiment conservé dans la fidélité, sous la conduite du Saint-Esprit, et transmis ensuite aux générations suivantes.
Vous avez remis ça dans un contexte entier, avec un préambule. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu de comment aborder cette question ?
Nous avons fait l'an dernier avec Fideo une année sur les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, ou le Premier Testament et le Nouveau Testament. En tout cas, on a scruté les Écritures en proposant d'ailleurs aux fidèles de scruter les Écritures, non pas seulement de façon cérébrale, intellectuelle, mais dans la prière, dans la Lectio Divina en particulier, qui est une réception priante de l'Écriture Sainte, de la Parole de Dieu. Une réception dans la foi de la parole de Dieu. Et donc, il fallait cette année aussi s'interroger sur la manière dont nous comprenons justement en Église la parole de Dieu, et en particulier à travers le credo. Hein, le credo, c'est le symbole, c'est-à-dire la manière dont l'Église reçoit et transmet sa foi. Le credo, il ne dit pas toute la foi de l'Église. Par exemple, il n'y a rien sur l'Eucharistie. Hein, c'est pour ça que l'an prochain, on abordera la question des sacrements. Pourquoi cela ? Parce que nous avons besoin d'accueillir cette parole en communauté, et pas seulement avec mes idées à moi, et pas seulement avec mes questions du moment. C'est-à-dire, on ne peut pas simplement écouter l'Écriture en la passant au filtre de nos catégories personnelles à nous. Et l'évêque encore moins que les fidèles. Parce que moi, Nicolas Brouvet, je ne suis pas envoyé dans le diocèse pour dire mes petites idées sur l'Écriture, mais pour garder le dépôt de la foi, pour le transmettre authentiquement, ça veut dire tel qu'il a été conservé dans l'Église. Et ça, c'est mon ministère. Et du coup, les fidèles ont droit, si vous voulez, c'est presque un droit ecclésial, quoi, à ce qu'on leur transmette la foi de l'Église catholique dans son entier. Ensuite, il y a la question vraiment de l'intelligence de la foi, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas, à 60 ans, nous en tenir au catéchisme qu'on a reçu à 10 ou 11 ans, tout simplement parce que quand on avait 10 ou 11 ans, on nous a enseigné le catéchisme avec des mots de 10 ou 11 ans, avec des concepts ou des images et des exemples de 10 ou 11 ans, mais nous avons grandi, d'abord on a acquis une maturité humaine, on a fait des études, on a commencé à exercer un métier, il y a des questions qui se sont posées, on a dû poser des choix importants, vitaux, engageants, et puis on a affronté des épreuves parfois très dures. Et tout ça, si vous voulez, le catéchisme de 10 ou 11 ans ne nous permet pas d'éclairer toutes ces situations. Et donc, il faut que notre foi aussi, notre intelligence de la foi, elle mûrisse, elle puisse mûrir face à toutes ces questions qu'on a pu se poser et qu'on se pose encore.
Et parfois, il y a des questions qu'on ne s'est pas posées soi-même, mais qu'on nous pose. Et là, on est démunis. Moi, par exemple, il y a des questions qui ne me posent aucun problème. La résurrection, ça ne m'en pose pas. Mais quand mon fils m'en parle et qu'il me pose des questions très précises, je suis démunie. Et je dois aller chercher les réponses parce que lui, pour lui, c'est important.
C'est ça. C'est exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que il y a les questions que nous nous posons personnellement, il y a les questions qui nous sont posées. Et justement, la méthode de Fideo, c'est de dire réfléchissons ensemble, mais donnons-nous des clés aussi pour aller au texte, pour aller aux sources. Parce que c'est ça le problème. C'est, par exemple, le Concile Vatican II, on en parle, beaucoup en parlent. Qui a lu en entier un seul texte de Vatican II ? Et pas seulement un article dans un journal catholique, mais qui est allé au texte. Et c'est ça que nous voulons faire avec Fideo, c'est aller au texte des pères de l'Église, au texte du magistère actuel, au texte du Concile Vatican II et des autres conciles, au texte du Credo et puis des différents conciles qui se sont réunis. Comprendre que la foi, elle ne s'invente pas justement avec nos préoccupations du moment. Elle ne s'invente pas pour simplement, vous voyez, coller à mes préoccupations à moi, à mes questions à moi, à mes interrogations à moi. Mais la foi, nous la recevons. Et donc, il y a un travail quand même à faire de l'intelligence. Et c'est ça que nous voulons proposer dans Fideo, en disant, allons comprendre l'Écriture avec d'autres chrétiens. Et que je ne soumette pas l'Écriture à mes propres catégories, en en prenant et en en laissant, comme justement nous le propose la société de consommation dans laquelle nous vivons, où nous sommes habitués à aller chercher des produits à droite, à gauche, et à prendre ce qui nous plaît, et puis à laisser ce qui ne nous plaît pas. Ben, la foi, c'est une autre démarche que celle-là, c'est l'accueil vraiment de la révélation que Dieu fait de lui-même en Jésus-Christ, dans la plénitude que représente le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, qui est l'aboutissement de la révélation, sous la conduite de l'Esprit, dans la lumière du Saint-Esprit.
On réinvente pas, en fait, la baratte à beurre. Je veux dire, il y a des choses qui ont déjà été expliquées, qui ont déjà été construites. Par exemple, là, aujourd'hui, je vous parle, on est devant un micro, il y a de l'électricité, il y a un matériel numérique, mais il y a 70 ans en arrière, c'était pas possible, tout ça. Il n'y avait pas d'ordinateur. Et pourtant, aujourd'hui, c'est possible. Donc, on a construit notre manière de fonctionner sur des choses qui se sont agrégées ensemble. Et peut-être qu'aussi, au niveau de notre compréhension du dépôt de la foi, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'aller creuser, de réinventer, comme je dis, la baratte à beurre. Elle existe déjà. Et ces éléments-là ont construit notre propre foi et ont construit notre compréhension du monde, donner un sens à ce qu'on vit et continuer de transmettre cette foi. Je ne sais pas si...
Oui, c'est tout à fait ça, avec le complément qu'il y a des questions qu'on ne se posait pas il y a 100 ans ou il y a 200 ans, et il faut que notre foi, nous puissions la dire aussi avec les perspectives d'aujourd'hui, avec les interrogations d'aujourd'hui. Je pense par exemple à la réflexion sur l'intelligence artificielle, ça interroge notre foi. Comment est-ce que, justement, nous arrivons à dire la foi de toujours, la foi avec 2000 ans de tradition, mais dans le contexte d'aujourd'hui ? Alors, à la fois, la théologie a ses concepts, et puis à la fois, il faut se faire comprendre par les gens qui nous écoutent.
Bien sûr. Certaines fois, tel vocabulaire ne sera pas bien compris. Il faut aller le creuser pour pouvoir le rendre accessible.
Voilà. Et du coup, c'est pour ça qu'en plus de l'écriture, de la tradition et du magistère, le magistère, si vous voulez, il rend actuel aussi la tradition, c'est-à-dire les enseignements de l'Église. Il dit aujourd'hui, avec les questionnements d'aujourd'hui, il dit la foi telle que nous pouvons la comprendre aujourd'hui.
Vous avez beaucoup insisté sur le fait que le dépôt de la foi, on l'a tous reçu. Vous avez une mission particulière, vous, en tant qu'évêque, mais tout le baptisé est appelé à recevoir ce dépôt. Vous avez même parlé du fait que parfois, un évêque peut se tromper, ou un prêtre, et le dépôt de la foi est toujours là, présent, dans la communauté chrétienne réunie. Par exemple, je ne sais pas, je veux dire un truc, ça peut arriver que tout à coup, une dévotion mariale, ça soit moins à la mode, tout ça, mais la communauté peut être restée attachée à cette dévotion, avec raison, et les choses juste reviendront de toute façon. Il faut faire confiance qu'il y a quelque chose qui va rester, même si il peut y avoir des fois un petit pas sur le côté, mais faisons confiance que le dépôt de la foi est toujours présent.
Oui, c'est-à-dire que le dépôt de la foi, il a été confié aux apôtres et par les apôtres à leurs successeurs. Et ça, c'est vraiment une chose qui est extrêmement importante. Voilà. Mais il est vrai aussi que ce dépôt de la foi, il a été également confié à tous les fidèles du Christ, et pas seulement aux pasteurs. Et la constitution Lumen Gentium, c'est une constitution du concile, souligne que tous les fidèles ont part à la compréhension et à la transmission de la vérité révélée, parce que tous ont reçu l'onction de l'Esprit-Saint. Par le baptême, nous avons reçu l'onction de l'Esprit-Saint. C'est Saint Jean qui le dit dans sa première lettre. Et cet Esprit nous instruit et nous conduit à la vérité tout entière. Et ça met en valeur, vous voyez, ce qu'on appelle le sens surnaturel de la foi qui est donné à l'ensemble des fidèles. Ce que dit aussi le Concile, c'est que l'ensemble des fidèles ne peut se tromper dans la foi parce qu'il a reçu ce sens surnaturel de la foi qui est celui du peuple tout entier. Alors, ce que j'avais donné comme exemple lors de la conférence inaugurale de Fideo, c'est que, par exemple, dans les années 70, il y a des régions du globe ou de France ou d'Europe où on a perdu, par exemple, des pans presque entiers de la tradition spirituelle. Il y a un moment où on n'osait plus parler de la sainteté. Il y a un moment où on a évacué les statues des saints. Il y a un moment où on était en délicatesse avec la Vierge Marie. Alors, je dis pas, vous voyez, au niveau de l'Église universelle, mais on a pu voir ça soit dans les paroisses, soit dans les diocèses. Bon. Alors, c'est la foi populaire qui a gardé ça. Regardez, par exemple, à Lourdes, comment la foi en la Vierge Marie. Lourdes a été comme un sanctuaire. Alors, un sanctuaire, si vous voulez, comme on l'appelle, c'est-à-dire un lieu de rassemblement des fidèles, mais aussi un sanctuaire pour protéger la foi en la Bienheureuse Vierge Marie. Et Lourdes n'a pas bougé pendant toutes ces années-là, alors qu'on pouvait douter à un moment. À la fois, vous voyez, du culte des saints, du culte rendu à la Bienheureuse Vierge Marie, et puis où on avait évacué aussi toute manifestation, toute forme de piété populaire. Or, la piété populaire, parfois, elle conserve, justement, très vivante, ces éléments de la foi qu'on peut avoir tendance à oublier. Et puis, comme souvent, vous voyez, c'est un moment, quoi. Alors là, maintenant, on retrouve des éléments de la piété populaire, on se rend compte qu'on en a vraiment besoin. Mais la piété populaire, elle a aussi cette vertu, parfois, vous voyez, de garder la mémoire. Par exemple, le culte de la croix, la foi en la rédemption, dans le seul Christ sauveur, et puis le manifester par des actes, par des chants. La piété populaire, elle manifeste cela, ce sens surnaturel de la foi qui est gardé par l'ensemble des fidèles.
Ça fait plaisir d'entendre ça, de se dire on fait partie d'un corps, et le corps a une intelligence tous ensemble.
C'est ça. Mais c'est une intelligence qui est donnée par l'Esprit, par le Saint-Esprit. C'est parce que nous sommes habités par l'Esprit-Saint, par le baptême, vous voyez. Et donc, à la fois, nous croyons que le dépôt de la foi est gardé par les successeurs des apôtres qui ont reçu l'enseignement de Jésus, parce qu'eux aussi, évidemment, nous avons reçu comme successeurs des apôtres l'Esprit-Saint. Mais il y a aussi ce dépôt de la foi, il est aussi gardé par le peuple entier. Vous voyez, c'est comme quelque chose qui est en tension, qui n'est pas opposé, qui ne s'oppose pas. Mais c'est comme si le peuple aussi gardait la foi, profondément, dans son cœur, dans son intelligence, dans ses pratiques.
Alors, on a parlé des traditions, et vous avez fait la différence entre la tradition de l'Église et les traditions. Moi, j'aurais besoin d'entendre qu'est-ce qui est de l'ordre de la tradition et de qu'est-ce qui est de l'ordre des traditions.
Oui, la tradition avec un grand T.
Oui.
Alors, on peut faire la différence entre la tradition avec un grand T et puis les traditions avec un petit T. La tradition, c'est vraiment la transmission ecclésiale des enseignements du Seigneur, de génération en génération. C'est-à-dire, vous voyez, Jésus a parlé, Jésus a fait des miracles, Jésus a fait des exorcismes, Jésus a... Et nous avons recueilli ça. À un moment, ça a été mis dans les évangiles, et puis ça a été aussi, quelque sorte, mis par écrit dans l'aide de saint Paul, de saint Pierre, de saint Jean. Bon. Le Nouveau Testament conserve cela. Bon. Et donc, la tradition, c'est nous conservons les enseignements du Seigneur, qu'il a confié aux apôtres, et les apôtres ont confié ce dépôt de la foi à leurs successeurs. Ça, vous voyez, c'est la tradition avec un grand T. Je vous rappelle juste une petite phrase de saint Paul à son disciple Timothée, dans la première lettre à Timothée. « Timothée, garde le dépôt de la foi, tourne le dos au bavardage impie et aux objections la pseudo-connaissance. » Il insiste là-dessus, sur la manière dont son successeur... Et alors il dit, dans la deuxième lettre, il dit « Ce que tu m'as entendu dire en présence de nombreux témoins, confie-le à des hommes dignes de foi qui seront capables de l'enseigner aux autres à leur tour. » On voit comment se fait la tradition. Paul a dit des choses à Timothée, c'est le premier chaînon, vous voyez. Et puis toi, maintenant, Timothée, deuxième chaînon, confie-le à des hommes dignes de foi, donc troisième chaînon, qui seront capables de l'enseigner aux autres à leur tour, quatrième chaînon. Voilà, ça c'est vraiment le dépôt de la foi sous la conduite du Saint-Esprit. Ça, c'est la tradition. Tradition veut dire transmettre. Tradere, en latin, veut dire transmettre. Et donc ça, c'est la grande tradition. Bon, donc qu'est-ce que Jésus a dit ? Ensuite, les traditions, ça c'est un peu autre chose. Les traditions, ce sont des manières que nous avons de transmettre la foi. Donc, vous voyez, tradere signifie transmettre. Et la tradition avec un grand T, est à distinguer des traditions théologiques, liturgiques, disciplinaires, dévotionnelles, comme dans la piété populaire, qui sont des expressions de la tradition avec un grand T, mais adaptées aux différents lieux, aux différentes époques. Mais ces petites traditions, on peut les modifier, on peut les abandonner aussi. Donc c'est différent de dire la tradition avec un grand T où on transmet les enseignements de Jésus, et puis les traditions qui sont parfois très locales. Vous voyez, il y a une sorte d'intensité des traditions.
C'est clair. Alors, pour vous dire, pour illustrer ce que vous dites, par exemple, en France, quand on fait notre acte de contrition, on va se frapper la poitrine.
Oui.
Eh bien, pour mon frère qui vient de Côte d'Ivoire, ça veut dire carrément autre chose. Ça veut dire, moi, je suis bon. Vous voyez, comme King Kong, là, boum, boum, boum. Et alors, pour eux, ce geste-là traditionnel français n'a pas du tout le même écho chez eux. Donc, ça montre bien que ce n'est pas hyper important.
Il y a des traditions avec un petit T qui sont importantes. Voilà. Et puis, il y a des traditions avec un petit T qui sont moins importantes. Mais c'est important. Vous voyez, il faut qu'on arrive à faire la différence. Les traditions avec un petit T au sens large, c'est une conservation d'usage ancien qui appartiennent à notre patrimoine. Aussi, vous voyez, ça, c'est les traditions dans notre culture. Vous voyez, nous avons un certain nombre de traditions. Ça appartient à notre patrimoine. Et les traditions, elles nous rappellent notre histoire, notre identité, notre terroir, ou tout simplement parce qu'elles nourrissent une culture familiale. Voilà, je crois qu'il faut garder précieusement ce qu'est la tradition avec un grand T, ne pas la confondre avec les traditions avec des petits T, et comprendre aussi que les traditions avec des petits T, il y en a qui sont extrêmement importantes, il y en a qui le sont moins. Voilà.
Et peut-être des fois creuser pour comprendre pourquoi cette tradition est appliquée à tel endroit et quel est le sens, parce qu'il y a toujours du sens derrière. Monseigneur, vous nous avez aussi expliqué qu'est-ce que ça voulait dire le credo, et vous avez parlé d'un usage à l'époque antique où, par exemple, j'ai quelque chose à vous confier, ça va passer par quelqu'un d'autre, donc pour que vous reconnaissiez cette personne, je vais lui donner une partie d'un vase que j'aurais cassé, un objet que j'aurais cassé, et ensuite on peut recoller les deux morceaux et voir que ça marche ensemble.
Oui, alors ça, c'est la question des symboles, les symboles de la foi. En fait, des professions de foi, il y en a plein. Il n'y a pas que les deux que nous récitons pendant la messe. Mais ce sont des petites synthèses de la foi qui ont été proposées, en particulier pour les candidats au baptême, pour arriver dans les débuts de la vie de l'Église à dire la foi. Finalement, tu es baptisé pourquoi ? Tu es baptisé au nom de quoi ? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que ça veut dire, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ? Donc, vous trouvez un certain nombre de professions de foi. Nous en avons retenu deux que nous disons à la messe. Et en particulier, cette profession de foi qui s'appelle le symbole des apôtres. Alors, le symbole, le symbolon, c'est la moitié d'un objet brisé que l'on présente comme un signe de reconnaissance. Donc, on met les parties brisées ensemble pour vérifier l'identité du porteur. Et donc, le symbole, c'est un signe de reconnaissance entre les chrétiens. Un symbole de foi, c'est le recueil des principales vérités de la foi qui nous sert de référence dans la catéchèse, mais qui nous sert aussi ensemble à dire une foi commune. Pour ça, c'est tellement important, ce moment de la messe, où on va dire, nous avons une profession de foi commune. Nous sommes capables de dire avec les mêmes mots, et pas seulement les nôtres en 2025, mais depuis 325 en particulier, nous sommes capables de dire notre foi ensemble, et d'avoir un texte qui est commun à tous, et de reconnaître, du coup, que notre communion dans la foi, elle peut se dire par des mots.
Et parfois, quand on les dit, eh bien, ça nous remet debout, le fait de dire les choses, de les nommer, parfois aussi, peut-être que telle phrase, on aura facilité à dire, mais pour X raison, ce jour-là, on a du mal à dire le reste, eh bien, le fait qu'on le dise tous ensemble, ça nous aide aussi à se porter. Parce qu'un acte de foi, c'est pas quelque chose de facile, et c'est quelque chose qu'on doit répéter jour après jour.
Oui, et puis, vous voyez, la liturgie, elle nous donne des mots pour dire la foi.
Oui.
Et c'est pour ça aussi qu'il y a des mots qui nous semblent étranges, mais il est important que la foi chrétienne, elle ait son propre vocabulaire, parce que ça nous permet d'enrichir, d'abord de comprendre mieux la foi, et puis avec des termes, de dire, il y a parfois qu'un terme qui peut expliquer ce que nous voulons dire. Les mots de la foi enrichissent notre intelligence, enrichissent notre mémoire spirituelle, et nous permettent d'être plus précis lorsque nous évoquons notre foi.
Monseigneur Nicolas Brouvet, merci beaucoup de nous avoir partagé tout cela. Il y aura d'autres journées diocésaines de rassemblement Fideo. Oui. Il y en a un qui est prévu au mois de février. Il y en aura un autre plus tard. Les auditeurs ne sont pas obligés d'être inscrits dans le parcours Fideo, même si on les invite à le faire parce que c'est quelque chose de magnifique. Mais néanmoins, ils peuvent se joindre à cette journée-là où il y aura des beaux enseignements et on ne peut que les inviter.
Oui, il y a les deux. Vous avez tout à fait raison de dire qu'on peut venir aux journées en présentiel, comme on dit maintenant. Mais quand même, moi, j'invite les auditeurs à faire cette belle expérience des petits cénacles de Fidéo, où on se réunit à 6 ou 7 et on travaille justement ensemble. Le credo cette année, l'an prochain, ça sera sur les sacrements et la vie liturgique, parce que je crois vraiment que ça nourrit la foi. On a besoin d'avoir une foi chrétienne qui soit intelligente et qui soit nourrie et qui nous fait mûrir aussi dans notre humanité. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci Hélène. Et alors, merci à tous les auditeurs.